BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 2 minutes. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts avec autour de la table Valérie Plagnol, Mathieu Plane et Stéphane Carcillo. On discutait juste pendant la coupure là de l'emploi des seniors, du taux d'emploi des seniors qu'évoquait Valérie Plagnol. Stéphane Carcillo, redonnez-nous à l'antenne ce chiffre totalement dingue. Je vous demandais si le taux d'emploi des seniors français entre 60 et 64 ans était en France équivalent à celui de l'Allemagne, quel serait le niveau de recettes supplémentaires?
Alors, c'est si le taux d'emploi en général était équivalent
total
à celui
donc
total.
Donc, on met les jeunes aussi. C'est les deux aussi, déficits
contre,
en France.
Sur la tranche 25-54 ans, on est aussi bon que l'Allemagne, voire au-dessus. Nos deux problèmes bien identifiés, c'est le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors. Et ça contribue à un taux d'emploi global plus faible de presque 10 points par rapport à l'Allemagne. On est à 68-69, l'Allemagne est à pratiquement 78% de taux d'emploi. Et si on avait 10 points de taux d'emploi supplémentaires, ça générerait pratiquement 140 milliards de recettes fiscales et sociales supplémentaires, c'est-à-dire contributions sociales, impôts, ce qui, grosso modo, réglerait l'essentiel de nos déficits.
Plus besoin de faire d'économies, pas besoin d'augmenter les impôts, simplement mettre tout le monde au travail rapporte près de 150 milliards.
Voilà.
C'est quand
donc
même
ça, c'est
un peu ce chiffre est dingue.
Voilà. Alors, c'est la sortie par le haut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Ça ne nous exonère pas de faire des économies à court terme parce qu'en fait, augmenter le taux d'emploi, c'est des réformes structurelles. Oui. C'est des choses qu'on va faire aujourd'hui et qui vont se voir dans 3, 5, 6 ans, 10 ans parfois. Pourquoi? Parce que augmenter le taux d'emploi, c'est parfois jouer sur des choses qui ont un effet rapide, comme par exemple l'accès à la retraite ou des éléments d'incitation fiscale. Ça peut être aussi les éléments sur l'assurance chômage, des choses comme ça. Bon, mais ça va jouer.
Tout ce qu'on n'a pas fait, remettre l'assurance chômage, réforme de l'assurance chômage.
Fait, mais ce que je veux dire, c'est que ça a des effets pour une partie, c'est des effets incitatifs financiers qui jouent à court terme. Mais cette partie-là, ça n'est qu'une partie du problème. Il y a une très grosse partie du problème qui sont des barrières non financières à l'accès à l'emploi, la santé chez les seniors, la formation, la formation chez les plus jeunes. Et ça, c'est des réformes structurelles qui mettent énormément de temps. Ça, c'est l'aspect volume, d'accord, qui nous permettrait de sortir par le haut de cette crise, mais qui jouera, qui peut jouer qu'à l'horizon de plusieurs années. Il y a un autre aspect qui est hyper important, c'est la productivité, c'est l'aspect prix. En augmentant le taux d'emploi, on augmente le nombre d'heures travaillées dans l'économie totale, ça finance mieux nos dépenses publiques. Mais chaque heure travaillée peut aussi produire plus. Et pour ça, il faut investir dans les nouvelles technologies.
On va voir. Et dans le quantique, notamment.
Dans le quantique, il faut que nos PME investissent. Et ça permet en plus d'être plus productif par heure travaillée. Et ça, c'est le deuxième aspect de la sortie par le haut de notre problème de déficit public.
Mathieu Plane. Toute la question de la croissance potentielle, en fait. Si on veut redresser notre croissance potentielle, il y a deux leviers. C'est comment on augmente le nombre d'emplois dans l'économie, le nombre d'heures travaillées. Et donc, par quel mécanisme, par quelle réforme, à la fois incitatif, mais aussi de formation, notamment qui pourrait jouer là-dessus. Et après, effectivement, tout le débat aujourd'hui, il est sur la trajectoire de productivité aussi, et y compris est-ce que l'IA va générer des gains de productivité.
Vous y croyez, vous? Beaucoup de mal, c'est pas le solo, on ne sait pas mesurer, mais
c'est savoir comment ça va s'organiser.
Naturellement, on dirait que ça va être dingue quand même.
Ça, je vois pas comment ça peut pas avoir d'effet, en fait.
On voit qu'on peut travailler beaucoup plus grâce à l'IA.
Le FMI montrait au niveau mondial que les gains potentiels de croissance, effectivement, sont les plus forts, sont du côté de l'IA. Mais par contre, la fourchette sur la croissance mondiale, elle est comprise entre 0,1, 0,2 de croissance supplémentaire par an jusqu'à 1%. Donc on a quand même une fourchette qui est extrêmement large. Aujourd'hui, personne n'est vraiment capable de dire quels vont être les réels gains de cette IA. Et d'ailleurs, est-ce que ça va substituer réellement à des emplois? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça permet d'intégrer plus facilement des gens sur le marché du travail ou pas? Donc il y a tous ces enjeux-là, mais c'est vrai que on rentre dans une phase avec d'abord beaucoup d'incertitudes sur cette croissance potentielle, et on était jusqu'à présent aussi dans une phase de risque de stagnation séculaire.
C'est-à-dire
que la croissance
potentielle de la France, c'est 1%.
On n'a plus de démographie, on n'a plus de productivité, donc on n'a plus de ressources. Et ce qu'il ne faut pas oublier là-dessus, c'est que la croissance, ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de tout, mais quand même la croissance, c'est ce qui vous fait vos recettes fiscales et vos recettes sociales. Et donc si vous avez une dépense qui dérive et qui accélère, qui va plus vite que cette croissance, vous avez une assiette fiscale qui augmente peu et une dépense qui déconnecte. Et donc là, vous avez quand même un gros problème de financement de votre économie, de votre modèle social.
C'est ce qu'interroge Alternance. Hein. Vous pouvez réagir sur mon compte Twitter, @legenrat, qui pose cette question qui n'est pas bête. Je lui ai posé une question bête. Ça n'est pas bête. Les États-Unis s'endettent, le Japon s'endette, la Chine s'endette au travers des gouvernements locaux. Pourquoi l'Europe est-elle le seul territoire à penser dette avant de penser croissance?
Les États-Unis il semblerait que la mesure de la productivité soit en train de progresser. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, mais on vient de le dire à travers tout ce travail, c'est que effectivement, la croissance et la productivité, la croissance potentielle, c'est aussi la croissance démographique. Nous n'avons plus ce levier comme nous l'avons eu dans les 30 Glorieuses.
C'est la base d'augmentation de la croissance potentielle,
des personnes,
les naissances.
Voilà, mais sans les naissances, on a aussi le taux d'activité. On vient d'en parler, effectivement, c'est très important. L'autre aspect aussi, c'est laisser et peut-être demander à l'État de se retirer de l'économie, de déréglementer, parce que la compensation pour les entreprises de toutes ces barrières à l'entrée, on parle beaucoup de la capacité à aller vers l'emploi pour les personnes qui n'y sont pas, mais parlons des entreprises qui hésitent à embaucher.
Ben oui.
Trop de règles. Alors, si on ne peut pas alléger immédiatement la fiscalité, parce qu'effectivement, on a ce souci, autant leur donner aussi une marge de flexibilité beaucoup plus importante et se retirer, refluer dans la réglementation. L'Europe semble en prendre conscience aussi. Et je pense que c'est une des compensations et c'est un des leviers majeurs. Il est invisible, mais il est prégnant sur l'ensemble de l'activité économique.
Il y a un sujet, on parle emploi, Stéphane, il y a un sujet qui enflamme les chefs d'entreprise. On était avec le MEDEF dans un événement hier spécial PME à la station F. Patrick Martin, le président du MEDEF, est revenu sur le sujet brûlant des allègements de charges. Le gel du barème des allègements de charges pour compenser la hausse, enfin qui ne va pas compenser du coup la hausse du SMIC au 1er juin. On va l'écouter, Patrick Martin, nous dire ce qu'il pense de ce gel.
Vous amputez de plus de 2 milliards d'euros d'allègement de charges, au même moment où, je le redis, il n'y a plus de croissance, il y a des destructions d'emplois, il y a un investissement qui est au ralenti, et en regard à une compétition internationale qui s'intensifie, mais y compris pour nos PME et nos TPE, c'est un crime contre l'esprit. Alors on comprend pourquoi le gouvernement fait ça, parce que ça passe non pas par un projet de loi de finances rectificative, mais par un décret. Donc politiquement, c'est assez indolore. Mais quand même, on n'est pas des lapins de 6 semaines, on va pas nous la faire. Moi, si on vient de me démontrer que, à l'automne, la situation budgétaire permettra de réenclencher ou de réaligner les allègements de charges, j'achète séance tenante. Bon courage à qui voudra nous démontrer ça.
Un crime contre l'esprit. Voilà comment Patrick Martin qualifie quand même le gel des allègements de charges. Alors, il dit que c'est politiquement c'est facile. Le sujet du gouvernement, c'est aussi que on arrête de faire dériver les allègements de charges. On est passé de 50 à 83 milliards d'euros d'allègements de charges entre 2020 et 2026.
Est-ce que 2014, vous étiez autour de 20 milliards.
Et on était autour de 20 milliards en 2014.
C'était la première dépense de l'emploi à l'époque.
Avant, ça déjà considérable. Avant la transformation du CICE. Alors ma question ce matin, c'est est-ce qu'il faut sacrifier, c'est quand même un allègement du coût du travail, donc est-ce qu'il faut sacrifier la compétitivité de nos entreprises sur l'autel des économies budgétaires? On rappelle qu'il faut 120 milliards d'efforts. Stéphane, puis Valérie, puis Mathieu.
Bon, c'est une enveloppe qui est complètement à la dérive et pas du tout pilotée. Il faut quand même le dire. Pourquoi elle n'est pas pilotée? D'abord parce que le SMIC augmente automatiquement. Le gouvernement n'a pratiquement aucune marge de manœuvre sur l'évolution du SMIC au regard des règles de revalorisation automatique avec l'inflation, y compris automatique infra-annuelle, c'est-à-dire en cours d'année. Ensuite, le barème des allègements est totalement indexé sur le SMIC. Donc quand le SMIC augmente, des gens sont rattrapés par le SMIC, il y a plus de personnes au SMIC, il augmente en plus que le SMIC augmente plus vite que les autres salaires. Donc on a une masse de plus importante de gens qui sont au taux d'exonération maximal. Et en plus, il y a plus de gens qui sont sur les taux les plus élevés aussi parce que tout le monde est rattrapé. Donc ce système objectivement n'est pas piloté. Il est totalement dans
un système automatique, oui.
C'est un système automatique
et du coup, pilotage automatique.
Dans un contexte
et ça devient de contrôle.
Compliqué, on peut pas avoir une enveloppe qui représente pas 2 milliards, qui ne représente pas 7 milliards, qui représente 75 milliards, qui dérive automatiquement. Donc, le gouvernement a totalement raison de reprendre la main sur ce sujet. Ça, c'est très très clair. Moi, ce que je pense.
En même temps, c'est un alourdissement du coût du travail. On est d'accord.
Alors oui, mais
les entreprises vont devoir payer la hausse du SMIC. et le gel des barèmes des aliments.
Tout à fait. Alors moi, ce que je recommandais, ce qu'on recommandait dans le groupe d'experts du SMIC, c'était de cibler la réduction, c'est-à-dire de réduire les allègements au-delà de deux fois le SMIC. Pourquoi ? Parce que on n'a aucun effet emploi prouvé au-delà de deux fois le SMIC. On sait qu'il y a des effets emploi parce que le travail est sensible à son coût au niveau du SMIC et à proximité du SMIC, très peu après. Je pense que la réforme du premier ordre, ça aurait été de changer ce qu'on appelle le point de sortie du barème, c'est-à-dire en gros plus d'allègement au-delà, par exemple, de deux fois le SMIC, plutôt que d'avoir plus d'allègement aujourd'hui au-delà de trois fois le SMIC. Je pense que c'était la réforme de premier ordre. On nous dit « Ah, mais si vous faites ça, il y aura un problème de compétitivité, etc. » Mais il y a des évaluations qui ont été faites par l'OFCE, par d'autres centres, qui montrent qu'en fait, quand on a fait le CICE et qu'on a énormément élargi l'assiette des allègements pour aller jusqu'à trois fois ou trois fois et demi le SMIC. Oui. Les entreprises ont utilisé l'essentiel de ces sommes. Alors au niveau du SMIC, toujours a priori pour sauvegarder de l'emploi.
Bon, c'est de l'emploi,
mais
oui.
Au-delà, pour augmenter les salaires. Alors quand on augmente les salaires avec des aides publiques, je vois pas en quoi ça joue sur la compétitivité. Si on l'utilise pour baisser les prix, là je veux bien. Mais donc l'argument en compétitivité, je le comprends pas du tout. Bon, alors donc je pense que le first best serait été de changer le barème et d'enlever des allègements là où ils ne servent pas à soutenir l'emploi.
Donc maintenant, au-dessus de 2 SMIC et demi, aujourd'hui c'est 3, on a déjà ramené hein, de 3,5 à 3.
Moi,
vous dites au-dessus de 2.
Vous demandez si c'est le first best pour reprendre la main.
Je suis pris.
Mais le gouvernement n'a pas fait ce choix. Il a fait le choix d'un gel continu pour plusieurs raisons, à mon avis. D'abord parce que politiquement c'est plus simple, je pense. Vous gelez et du coup, hein, en prenant le risque du coup d'effet d'emploi potentiellement négatif au niveau du SMIC dans un contexte dégradé, mais probablement très petit la
première année. Au moment où le chômage augmente.
À mon avis, tout petit. En tous les cas, si le gel était prolongé, on le sentirait, mais probablement. Et donc, il a, pour des questions politiques et pas rentrer dans le débat des secteurs qui seraient affectés, parce que si on supprime au-delà de 2 SMIC, l'industrie va être plus taxée que d'autres, etc. Donc, pour sortir de ce débat, il a fait quelque chose d'uniforme. À mon avis, c'est la première raison. La deuxième raison,
c'est... Mais il a raison. Ce que vous dites, c'est qu'il a raison.
De quoi? De reprendre la main?
Oui.
Oui, il a raison de reprendre la main. Et il a voulu éviter le débat. Ça, c'est un choix politique. Je pense qu'il a...
Oui, bon, on voit que c'est compliqué en ce moment, effectivement.
Mais juste avant de redonner la main, le deuxième élément, à mon avis, pour lequel il a fait ça, c'est que je pense qu'il veut aussi probablement préparer d'autres ajustements. Parce que des ajustements, là, il y en a sur la sphère emploi, de désindexation. Mais on va avoir l'indexation des prestations sociales au 1er octobre.
La bombe.
Au 1er janvier.
Budgétaire à venir.
Au 1er avril. Ouais. Et à mon avis, la préparation, c'est qu'on va dire à un moment donné, on a désindexé toutes les aides aux entreprises, que c'est perçu comme des aides aux entreprises, des allègements, même si ça fait un énorme effet de redistribution vers les salariés en termes d'emploi et de salaire, c'est perçu
C'était
comme des aides aux entreprises.
C'était considéré comme tel par le rapport sénatorial.
Et je pense que du coup, en termes d'équilibre politique, à mon avis, il y a aussi quelque chose qui joue dans les différents arbitrage difficile qu'on va devoir faire. Il va falloir montrer que
on a fait payer les entreprises, on va faire payer aussi sur
tout le monde y compris sur les aides sociales. Voilà.
Valérie Pérignol.
Un des grands défauts de cette réforme, enfin de ces réformes, ça a été quand même la smicardisation. Et je vous rejoins. Alors non seulement sur les coûts, mais aussi sur la qualité de l'emploi et la productivité. Est-ce qu'aujourd'hui on est quand même sorti du chômage de masse d'il y a 20 ans, 25 ans. Est-ce que maintenir un taux de SMIC, de SMICAR, qui ne bouge plus en fait, et qui reste à vie dans ses salaires, c'est vraiment nécessaire au regard des
transformations économiques. Ce que vous nous dites, c'est que c'est une trappe à bas salaire.
C'est une trappe à bas salaire. Et ça l'a été, c'est démontré. Aujourd'hui, justement, le monde a changé. Alors, on revient à... Comment peut-on compenser les entreprises de telle sorte qu'elles retrouvent ou qu'elles ne perdent pas cette compétitivité? Moi, j'ai tendance à penser que ça va du côté des impôts de production. Alors, c'est vrai que c'est pas facile dans ces arbitrages budgétaires à court terme et qu'il faut, encore une fois, laisser le marché arbitrer, préparer la formation et s'élever dans la productivité grâce justement à une adaptation à de nouveaux outils technologiques. Sinon, on va se retrouver avec du chômage de masse, encore une fois, hein, quels que soient les allègements qui sont promis ou qui ne sont plus.
Mathieu Plane.
Non, moi je crois que c'est un grand, grand sujet, mais très, très sensible. Et je suis d'accord.
Ça met le feu aux chefs d'entreprise. Hein. Très franchement, ils sont très très remontés contre ce gel.
C'est vrai qu'il faut, vraiment regarder dans le rétroviseur, quoi. C'est-à-dire que depuis 30 ans, chaque gouvernement a rajouté une couche oui. en réalité, à ces exos. Oui. Et je trouve que c'est devenu là, en fait.
Ça avait commencé sous Édouard Balladur.
Oui, c'est
si
ça.
Je dis pas de bêtises.
C'est dans les années 90.
Oui, au début des années 90, 93.
Ouais,
c'est une addiction. Hein,
c'est bien, je crois.
Non, mais il y avait une vraie raison à l'époque. Oui, on avait un chômage de masse de 10% avec l'essentiel des personnes qui étaient peu qualifiées, sans aucun diplôme. Donc il y avait un sujet coût du travail.
C'est pas une idiotie intellectuelle. C'est-à-dire que cette construction, c'est de dire, en fait...
Ça avait plutôt bien marché.
On veut baisser le coût du travail sans baisser le salaire des travailleurs les plus modestes, en tout cas en bas de l'échelle des salaires. Et donc l'idée, c'est de dire on réduit les cotisations patronales sur les bas salaires. Et donc ça commence effectivement dans les années 90, après il y a eu les 35 heures, après il y a eu le CICE, après il y a eu le pacte de responsabilité, après il y a eu la transformation de tout ça, et vous avez une dérive qui n'a pas été contrôlée budgétairement, de 20 milliards à quasiment 80, mais c'est quand même colossal, colossal. Et aujourd'hui, c'est plus maîtrisé, parce qu'effectivement, quand vous revalorisez le SMIC, ce qu'a très bien expliqué Stéphane, c'est qu'en fait, ça fait concentrer les salaires sur le bas, et donc ça fait exploser le coût de ces allègements. Mmh. Et d'ailleurs, 2021-2023, on a un épisode inflationniste, oui. On est passé de 12% de personnes au SMIC à 17%. Et donc, il y a une explosion des exos de cotisations patronales à ce moment-là. Ben, on va retrouver
le même phénomène.
Là, on va et budgétairement, ça va nous coûter cher. Et en plus, ça fait effectivement un effet de concentration.
Un tassement terrible. Non, mais politiquement, on voit les conséquences aussi. C'est-à-dire que toutes les classes moyennes ont l'impression de se faire rattraper par le salaire minimum.
Vous avez une
concentration
des salaires terrible. Là-dessus. Alors, c'est vrai que, du coup, vous êtes quand même coincé là-dessus, parce que quand vous voulez refonder tout ça, vous dites, je vais mettre moins d'exonération sur les bas salaires et peut-être un peu moins faire un truc moins dégressif. Sauf que les secteurs qui emploient les personnes au SMIC, que ce soit le BTP, l'hôtellerie restauration, les services à la personne, vous dites, on va plus embaucher, quoi. On va plus embaucher.
Donc il va y avoir un effet sur l'emploi.
Il y a un risque d'effet sur l'emploi. Mais ce que je veux dire aussi là-dessus, c'est qu'on a créé un espèce de monstre fiscal avec le temps, avec ces couches qui se sont superposées. Je regardais, d'ailleurs, c'est l'OCDE qui montre très bien ça. Que le taux de cotisation patronale au niveau des bas salaires aujourd'hui en France est un des plus faibles de l'OCDE. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de cotisation patronale. Je crois qu'il y a que la Nouvelle-Zélande qui est devant nous. Et si vous prenez au niveau du salaire médian, on est quasiment le plus élevé de l'OCDE. Donc c'est quand même, on est le seul.
Donc l'écart est dingo.
Il faut se poser la question.
Et le SMIC est proche du salaire médian.
Et donc il pose quand même plein de problèmes budgétaires, progression de salaire, montée en gamme, risque de trappe à bas salaire. Donc il faut refonder. Donc ça va être compliqué. C'est vrai qu'à court terme, le gouvernement propose quelque chose qui n'est pas un engagement politique très fort d'une réforme. C'est de dire, en fait, on fera des économies, ce qui permet aussi d'engager potentiellement des désindexations sur les prestations sociales ou même sur le barème de l'impôt sur le revenu pour la suite. Mais dire, en fait, on essaie d'équilibrer un peu les choses. Et puis, dernier point, c'est que pour moi, c'est pas vraiment une politique de compétitivité, c'est une politique d'emploi.
Ouais.
Je veux dire, la compétitivité, si vous l'avez fait au niveau du secteur industriel, l'industrie chimique ou l'industrie pharmaceutique, elle en touche assez peu de ces exonérations.
Oui.
C'est pas là-dessus qu'elle va aller se battre.
C'est mieux de baisser les impôts de production.
Et les taux d'exonération sont maximum à l'hôtellerie-restauration, au BTP. Ils exportent pas l'hôtellerie-restauration et le BTP. Donc, si vous voulez faire de la politique industrielle, c'est pas par de la politique d'exonération. Non. Il faut faire sur les impôts sur la production, il faut réfléchir au financement de l'innovation, à plein de trucs.
C'est ça.
Mais donc voilà. Donc il faut refonder ce système.
Un outil, un objectif.
Voilà. Mais c'est pas une politique de compétitivité extérieure. C'est une politique d'emploi essentiellement. Moi, je pense que justement, on est passé à côté de la politique industrielle pour ces raisons-là.
Et il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme tu l'as dit, Mathieu. On a quand même des évaluations qui ont montré qu'au niveau du SMIC, c'était utile.
Ah bah oui.
Au niveau du SMIC, c'était utile. Et donc, à un moment donné, il va falloir recentrer cette politique là où elle est utile. Et arrêter de arroser toutes sortes d'emplois avec ces aides ou là où il n'y a pas d'effet emploi démontré. On ne peut plus se permettre ce genre de choses. Donc il va falloir recentrer la politique là où elle est utile. C'est une politique
ce qui est vrai pour l'apprentissage aussi.
Et elle doit être utile là où il y a des effets emploi démontrés.
Si on veut faire de la politique industrielle, on fait différemment.
Et si on fait de la politique industrielle, on fait différemment. De la compétitivité, on fait différemment. Un outil, un objectif.
Allez, il est 10h21. Ça marche aussi pour la fiscalité. Hein,
Tim Burgen.
Voilà. Il est 10h passé de 21 minutes. Il nous reste quelques minutes encore ensemble. Je voulais qu'on parle de cette note du Trésor sur les potentiels incroyables qu'aurait le quantique sur notre croissance. Alors, le quantique, Emmanuel Macron a annoncé 1 milliard d'investissements vendredi dernier dans les calculs quantiques. Et cette étude du Trésor estime que cette technologie pourrait, à terme, augmenter le PIB français d'environ 8%. Ça paraît encore très loin, ceci dit.
Ça
Valérie
paraît
Pagnol,
encore très loin, effectivement. Alors, je ne suis pas une spécialiste de cette technologie, mais effectivement, on y pose beaucoup d'espoir et beaucoup d'entreprises.
Ça peut être la prochaine révolution industrielle.
On est déjà dans une révolution aujourd'hui avec l'IA, donc c'est la prochaine étape dans cette révolution. Elle est tout à fait extraordinaire, il faudra probablement la maîtriser. Ça pose des problèmes d'ailleurs sur les anciens systèmes et ce sont des facteurs de transformation tout à fait remarquables. Sur les estimations du Trésor, j'avoue que je n'en sais trop rien, mais encore faut-il qu'il y ait de l'investissement, encore faut-il qu'on laisse effectivement le monde de l'entreprise se réorganiser autour de cette technologie, et ça prend du temps. C'est sûr que l'humain ne s'adapte pas aussi vite, les organisations du travail ne s'adaptent pas aussi vite. Je voudrais rajouter, je ne sais pas si ça aura un effet, mais il ne faut pas oublier la transition énergétique. Les enjeux sont aussi des coûts initiaux.
On a beaucoup parlé d'électrification cette semaine.
Voilà, tout ça effectivement participe du même phénomène. Si on plaque cette nouvelle technologie qui effectivement est très prometteuse sur notre système tel qu'il est, ça va surtout être des coûts supplémentaires, je crois. Ah. C'est vraiment, le monde change et comment on retrouve l'agilité à s'adapter à ce monde qui change extraordinairement.
Mais oui. Mais il change tellement vite qu'on se dit que le quantique, finalement, au lieu d'être après-demain, c'est peut-être juste à notre portée là, quoi. Et qu'on a encore.
Et il y aura des craintes et il y aura des espoirs.
Je crois, c'est vrai que c'est un sujet très compliqué. On fait partie des leaders mondiaux dans le quantique, hein, donc et que c'est effectivement une révolution. C'est très complexe.
Ouais.
C'est très complexe.
Oui, on a du mal à appréhender. Cette révolution,
du mal à l'appréhender. Oui. On a quelques ordinateurs quantique qui commence à fonctionner. Avant, c'était pas en état de fonctionner. Là, ça commence à fonctionner. Ça permet de résoudre des problèmes ultra complexes qu'on n'était pas capable de résoudre, hein, sur d'ailleurs le séquençage d'une protéine, je crois, sur le transport, la logistique, la finance. Donc, il y a quand même un certain nombre de domaines qui pourraient être concernés. Ça nécessite effectivement des technologies, des investissements importants. Alors, je lisais que quand même, on était capable de faire des ordinateurs quantiques qui sont à 80% de composants européens.
Donc on est quand même la préférence européenne fonctionne.
Mais par contre, et donc il y a un enjeu économique, hein,
de chaîne de valeur,
etc. Ouais. Et il y a un enjeu aussi stratégique parce qu'apparemment il y a la question du cloud.
Ouais.
Et pour le coup, on est
très dépendant des Américains.
On est très indépendant. Donc c'est vrai que c'est des vrais sujets. Et quand on parlait de côté budgétaire, ça c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que le risque, c'est aussi de renoncer à l'avenir. Et moi, je pense que justement, ces enjeux-là sont très importants. Un milliard, finalement, aujourd'hui, ça paraît.
C'est pas grand-chose.
Pas beaucoup. Peut-être pour quelque chose où on a encore une forme de.
Quand on voit les investissements dans l'IA, on n'est pas dépassé. C'est pas grand-chose.
Alors c'est vrai que les États-Unis, la Chine sont aussi très costauds, mais la France est considérée sur ce segment-là. Ouais. Donc il faudrait pas louper le coche pour des questions comme ça, mais par contre, il faut réfléchir à des enjeux aussi de souveraineté numérique qui deviennent de plus en plus importants dans un monde où justement cette information quantique ou de l'IA va être ultra dominante. Et donc, si on nous ferme le robinet à un moment donné, en fait, vous avez beau avoir fait des investissements colossaux, être technologiquement adapté, avoir des très bons ingénieurs, si vous ne pouvez pas les utiliser, c'est terminé. Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir à tout ce modèle-là, et comme Valérie disait, en fait, le monde change, quoi. On ne peut pas juste superposer les choses.
Et si on pense d'ailleurs, revenir au débat sur les allègements, hein, si on se dit, on supprime les allègements au-delà de deux fois le SMIC, ça va toucher des industries, etc., on fait 7 milliards d'économies par an.
Au-delà de SMIC.
Okay. 7 milliards d'économies par an.
Oui,
il faudrait mieux utiliser ces 7 milliards.
Dans la recherche fondamentale, l'innovation.
Soit alléger les impôts de production, soit continuer à investir dans le quantique ou dans l'IA. Ce serait beaucoup plus efficace pour ces industries, ces secteurs, que d'alléger le coût du travail là où ça n'est pas du tout nécessaire pour l'emploi.
Vous voyez l'impact de l'IA? Vous travaillez sur l'impact de l'IA
sur l'impact de l'IA à l'OCDE et les perspectives de l'emploi de l'année prochaine.
On sent intégralement dédié aux
effets de l'IA sur les entreprises et sur l'emploi.
Alors, job apocalypse ou pas, Stéphane Carcillo? C'est le sujet qui monte énormément.
Et justement, on regardera ça en très en détail l'année prochaine, à la fois avec des enquêtes auprès d'entreprises et de salariés, mais aussi en allant regarder dans les données administratives pour voir les effets sur l'emploi et les salaires des entreprises qui ont adopté l'IA.
Est-ce qu'on est en ce moment même, moi je suis un peu surpris dans les rencontres que je peux faire d'une angoisse qui monte, mais maintenant, parce que les entreprises expérimentent aujourd'hui. ChatGPT a débarqué il y a 3 ans dans nos vies, mais on a l'impression que c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, que l'IA est en train d'entrer dans l'entreprise.
Oui, alors nous, dans les données qu'on a aujourd'hui, y compris sur les jeunes, on n'a pas de preuves de remplacement massif. On voit bien qu'il y a certains secteurs où il se passe des choses, évidemment. On voit bien des métiers complètement changés parce que parce qu'on a des outils numériques dopés par l'IA qui vont remplacer des tâches. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que les personnes n'ont plus d'accès à l'emploi. Leurs tâches vont beaucoup changer. Et c'est vrai qu'on a dans les pays de l'OCDE un différentiel de taux de chômage qui augmente pour les jeunes par rapport aux personnes d'âge moyen. Oui. Mais ce différentiel, il augmente depuis avant ChatGPT.
Ah.
Et donc cette tendance d'augmentation du taux de chômage relatif des jeunes, c'est quelque chose qui date pas de l'introduction de l'IA.
L'intelligence artificielle.
Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas de preuves massives de remplacement. Évidemment, on est extrêmement prudent parce qu'on voit bien que tout ça est en train de se mettre en place. Bon. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Mais je pense beaucoup au changement des tâches plus qu'au remplacement.
Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Valérie Plianol, Mathieu Plane et Stéphane Carcillo, pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay. Tout de suite, c'est Tout pour investir, rediffusion avec Antoine Larry-Gaudry. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.